Les faucheurs volontaires emploient les moyens de la désobéissance civiquement violente en agissant à visage découvert.
La banderole de tête de cette manifestation, ça va être « Change le système, pas le climat ».
La vie est en chute libre dans tous les secteurs. La situation globale de la planète relève de l'extermination.
Bonjour, vous êtes sur CFM et vous écoutez Les Croissants Décroissants, un magazine d'écologie sans chichi. Pour vos avis, commentaires, suggestions, vous pouvez toujours écrire à lescroissantsdécroissants@gmail.com. Aujourd'hui, nous allons parler du chocolat. Alors, comment se fâcher à l'approche de Noël ou de Pâques? Il suffit de parler des impacts environnementaux et sociaux du chocolat. On l'aime tellement le chocolat qu'on préfère en oublier les conditions de production. Ce cacao, que l'on consomme surtout sous forme de chocolat, est produit en zone tropicale et principalement exporté vers l'Occident. Consommé noir en France, aux États-Unis, on le préfère au lait, d'autres le préfèrent sans cacao, blanc. Commençons par un petit peu d'histoire. Le chocolat est un mets qui nous vient du bassin amazonien où les populations précolombiennes le consomment depuis au moins 3500 ans. On retrouve également des traces de son utilisation au Mexique. Plus tard, au 8e siècle après Jésus-Christ, les Mayas le consomment et utilisent les fèves de cacao fermentées comme un moyen d'échange. Ce n'est qu'au 16e siècle que le cacao sort d'Amérique centrale. Les Européens, qui n'apprécient pas particulièrement son goût, finissent par s'y habituer en le mélangeant à du sucre et du lait pour en neutraliser l'amertume naturelle. Face à la forte demande pour cette nouvelle boisson, les armées espagnoles commencent à réduire en esclavage les Mésoaméricains pour produire le cacao. Au XVIIe siècle, la consommation de cacao passe des cours royales aux aristocrates et aux clergés espagnols. Puis, l'usage se dissémine ainsi au reste de l'Europe. Au XVIIIe siècle, le chocolat solide fait son apparition et permet sa démocratisation. C'est au XIXe siècle que les chocolateries industrielles apparaissent, se multiplient aux quatre coins de l'Europe. Suchard en Suisse, Van Houten aux Pays-Bas, Cadbury en Angleterre notamment. Des marques que l'on connaît toujours sur les rayons des supermarchés. Le Toblerone, Milky Way, Mars, Nestlé apparaissent à leur tour autour du début du XXe siècle. Aujourd'hui, les mastodontes du chocolat sont par ordre décroissant Mars, Ferrero, Kraft Foods, le japonais Meijiko, l'américain Hershey, puis Nestlé, Lindt and Strongly. Les trois premières entreprises de cette liste représentent la moitié du chiffre d'affaires de la filière cacao à elle seule avec près de 40 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Bon, ce ne sont pas des entreprises qui prônent une utilisation traditionnelle et culinaire du chocolat. Si nous connaissons bien en France les tablettes de chocolat à croquer, éventuellement les truffes ou autres bonbons de chocolat, les Mayas le consommaient sous forme de boissons chaudes et mousseuses. Les fèves étaient grillées et broyées, puis mélangées à de l'eau et à de la farine de maïs qui servait d'épaississant. Au Mexique, aujourd'hui, on consomme toujours le chocolat en sauce épicée pour accompagner le poulet, une autre manière d'utiliser cette denrée. Bon, on parle de chocolat, mais on n'a toujours pas vu ce que c'est exactement. Le cacaoyer est un arbre relativement petit à feuilles persistantes qui pousse en milieu tropical. On le trouve désormais sur les 5 continents alors qu'il venait d'Amérique centrale. Son fruit, la cabosse, est récolté 2 fois par an, une fois qu'elle est arrivée à maturité. La culture du cacaoyer est assez exigeante en eau et en matière organique. Normalement, il pousse plutôt à l'ombre de la canopée et vit jusqu'à 40 ans. Il donne ses premiers fruits à 3 ans et n'atteint son plein rendement qu'à partir de 6 à 7 ans. Ses fleurs sont pollinisées par des insectes du genre diptères. De la cabosse, on extrait des fèves. Une fois égrenées, elles sont mises à fermenter puis séchées au soleil. La suite du processus de transformation se fait non pas dans les pays d'origine, mais plutôt en chocolaterie. On trie les fèves, on les torréfie quelques minutes, puis on les concasse pour en retirer l'enveloppe, puis on les broie à chaud jusqu'à obtenir une pâte lisse. C'est la pâte de cacao. On peut alors en soutirer le beurre de cacao et obtenir du cacao pur en poudre. Avec la pâte de cacao, on peut ajouter du sucre. On obtient alors du chocolat noir. On peut y ajouter du lait en poudre ou du lait concentré. On obtient alors du chocolat au lait. Et le chocolat blanc, lui, n'est constitué que de beurre de cacao et bien sûr de lait et de sucre. Mais il ne contient pas vraiment de cacao à proprement parler. Pas la matière sèche du cacao, uniquement la partie lipide. Le chocolat au lait doit contenir 24% de cacao au minimum, ça c'est en Europe, 10% aux États-Unis. Quant au chocolat noir, il doit en contenir 43% au minimum. Et plus le taux de cacao est important, moins il y a de sucre qui est ajouté. Par contre, cela ne veut pas dire que le chocolat est du pur cacao, de la pure matière sèche. Il y a une part plus ou moins importante de beurre de cacao. Une part qui, d'ailleurs, est rarement mentionnée. Mais si vous achetez du chocolat de couverture, vous êtes assuré d'avoir un peu plus de beurre de cacao, car c'est ça qui fait la malléabilité, son coulant, son aspect lisse et brillant. Et pour réduire les coûts de fabrication, les chocolateries ont le droit d'incorporer jusqu'à 5% de matière végétale autre que le cacao. On peut trouver ainsi de la lécithine de soja, qui est un émulsifiant. Elle sert donc à rendre le chocolat plus appétissant, à éviter que le beurre de cacao se désolidarise du sucre et forme des traces blanches en surface de votre tablette, ce qui n'a aucun impact sur le goût, mais juste sur l'attrait visible. Le chocolat ainsi obtenu contient donc principalement des glucides, c'est-à-dire du sucre, des lipides, le beurre de cacao. Il contient aussi de la théobromine, un alcanoïde amer et un stimulant. Il contient également de la flavonoïde, un antioxydant. C'est également une bonne source de magnésium, car si vous en ingurgitez 3 tablettes de 100 grammes, vous aurez votre dose de magnésium pour la journée. Bon, vous mangeriez des noisettes ou des amandes de votre jardin et vous auriez des apports tout aussi riches. Mais au fait, d'où vient le chocolat ? On l'a vu, le cacaoyer était initialement en Amérique plutôt centrale. Et on l'a vu également, la transformation se fait plutôt en Occident. Les fèves, elles, de nos jours, proviennent à 70% d'Afrique, à 15% d'Asie et à 15% d'Amérique latine. Et d'ailleurs, qui en mange ? Les Occidentaux. Dans le monde, en moyenne, on mange 600 grammes par an par personne de chocolat, mais avec de fortes disparités. En Asie et en Afrique, on se limite à 100 grammes par an et par personne. C'est-à-dire que la plupart des gens n'en mangent pas du tout. En Europe, on préfère en absorber 2 kilos par an et par personne. La France étant en tête avec ses 4 kg par an et par personne à égalité avec les États-Unis. Nous sommes loin derrière la Suisse qui, elle, en consomme 10 kg par personne et par an, soit 100 fois plus que les Asiatiques et les Africains. Vous êtes toujours sur CFM et vous écoutez les croissants décroissants. Aujourd'hui, nous parlons du chocolat. Un chocolat qui est produit principalement en Afrique et se consomme principalement en Occident. Serait-ce un vestige ou une trace post-colonialisme ?
C'est un déjeuner.
Un goûter délicieux, banania.
Banania, banania.
Mmh, bon.
Banania.
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 On l'a vu, le chocolat, c'est bon pour la santé. Enfin, pour la santé de celui qui en mange. Car pour la planète et pour les producteurs, on peut se poser la question. 90% du chocolat que l'on consomme est issu de filières industrielles. Le chocolat labellisé commerce équitable ne représente que 0,5% du marché mondial. À partir du moment où vous trouvez une tablette sur le rayon d'un supermarché, c'est un processus industriel. Quelques filières extrêmement rares permettent de passer outre les gros exportateurs et lient directement les producteurs aux artisans chocolatiers. Un processus globalement artisanal, mis à part peut-être le transport. L'empreinte environnementale du chocolat n'est pas anodine. La plupart des exploitations se sont faites sur des terres qui ont été déboisées, en détruisant toute biodiversité et en dégradant tellement les sols par de l'agriculture intensive qu'il faut de nouveau déforester pour planter ailleurs et regagner des gains de productivité. De 4,4 millions d'hectares exploités en 1960, nous sommes passés à quasiment 12 millions d'hectares en 2018. Le cacaoyer demande un sol riche. En monoculture, il faut lui apporter encore plus d'engrais car il ne protège pas assez le sol du rayonnement solaire, ce qui tue le biotope de la terre. Dans la nature, en fait, il vit en symbiose avec des légumineuses qui lui apportent de l'azote et de l'ombre. Un cacaoyer demande d'autre part l'apport de 17 mètres cubes d'eau pour 1 kg de fèves produites. Une babiole quand on connaît les tendances de pluviométrie dues au réchauffement climatique. Un réchauffement dû notamment aux Occidentaux qui consomment le chocolat et non pas aux Africains qui produisent le cacao. Pour terminer sur l'aspect environnement, il se trouve qu'environ 70% de l'empreinte du chocolat est supportée par la production des fèves. La transformation, les emballages, le transport, etc., cela représente environ 30%. Alors, on peut se réfugier derrière des labels zéro déforestation. Mais d'une part, les parcelles ont déjà été déforestées. Il s'agirait plutôt de les remettre en forêt et non de poursuivre la culture. De plus, des études montrent qu'en général, comme par exemple pour l'huile de palme, les parcelles dites sans déforestation engendrent indirectement, de par la demande forte du marché, la déforestation d'autres parcelles pour les mettre en production de produits non labellisés. Il se trouve qu'en France, nous apprécions particulièrement le chocolat noir. Et la mode des chocolats avec des taux importants de cacao s'est installée depuis environ 30 ans. On retrouve sur les emballages ce fameux pourcentage bien mis en évidence. 70, 80, 90, 99% de cacao. Sauf que plus il y a de cacao dans la tablette, plus l'empreinte environnementale est forte. Car le cacao est l'ingrédient qui a le poids le plus fort. Il demande beaucoup de matière organique, d'engrais, plus d'eau, plus de surface pour être produit. Produire du sucre et du lait a beaucoup d'impact, certes, on le sait, mais significativement moins que le cacao. Ah, quel malheur ! À partir de décembre 2024, l'Union européenne interdira l'importation de denrées qui auraient engendré de la déforestation depuis 2021. C'est une initiative louable. Cependant, encore une fois, il s'agirait plus de reforester que d'arrêter la déforestation. En Côte d'Ivoire, la forêt a reculé de 90% en 60 ans, pour une bonne part à cause de l'exploitation des forêts pour le cacao. D'autre part, un point à souligner, de par la mise en pratique de cette restriction de l'Union européenne, il faut arpenter les champs, assurer la traçabilité des fèves. Un moyen technologique qui, globalement, n'est pas à la portée de tous, que seules les multinationales et quelques niches de producteurs-consommateurs fortunés peuvent mettre en place. Cette loi serait utile si elle s'accompagnait de moyens financiers pour éviter que les petits producteurs ne soient encore plus dépendants des multinationales. Alors, on pourrait croire également qu'acheter du cacao, labellisé ou non, cela permet à des populations de vivre. C'est là encore peut-être une pensée post-coloniale assez caractéristique. Que nous, bons consommateurs, nous faisons vivre des gens en mangeant du chocolat. La réalité est assez différente de cet argument de déculpabilisation. Tout d'abord, les agriculteurs ne perçoivent que 5 à 10% du prix final d'achat, le reste étant pris par les transformateurs et les industriels occidentaux. En 40 ans, le prix, ou plutôt la valeur du chocolat, a décru de 50% sur le marché mondial, et ce, à euros constants. 50% des producteurs vivent sous le seuil de pauvreté, soit 50% des 5 à 6 millions de personnes qui produisent des fèves de cacao. Parfois, l'origine des chocolats est mentionnée sur l'emballage. On peut déjà s'assurer qu'il n'y a pas une petite astérix ou une tournure qui laisse entendre que ce n'est qu'une partie des fèves qui viennent de la région ou des coopératives mentionnées. Il m'est arrivé de consulter des images satellites des régions indiquées et on observe des champs de cacaoyers en monoculture. Mais surtout, on ne voit aucune trace d'agriculture vivrière. C'est-à-dire que les populations semblent utiliser leur sol pour faire pousser des cacaoyers pour produire notre chocolat. En retour, nous leur offrons un peu d'argent pour qu'ils puissent acheter la nourriture qu'ils auraient pu faire pousser eux-mêmes, quand ce n'est pas pour leur vendre des produits occidentaux hors de prix et souvent inutiles. Et c'est là que le bât blesse. Il existe un déficit abyssal dans les échanges entre l'Afrique et l'Occident. Nous continuons à importer des matières premières, du travail à vil prix, pour revendre au prix fort des produits et services réalisés chez nous. Au-delà de ces extractions de matières premières, quand on achète des fèves de cacao, on paye l'agriculteur au tarif local. Si l'on prend l'exemple de la Côte d'Ivoire, principal producteur mondial de cacao, à peu près 40% de la production mondiale, Fairtrade, le label, estime qu'en 2018 que les producteurs exploitent en moyenne autour de 5 hectares, soit 6000 cacaoyers. Ils récoltent environ 2 tonnes de fèves, vendues 2 000 $, ce qui représente 70% des revenus d'un foyer qui est lui-même constitué de 5 adultes et 4 enfants. 2 000 $ par an pour 9 personnes, alors que le revenu moyen d'un Français est de 2 600 € net par mois. En un mois, on gagne plus en moyenne que tout un foyer de producteurs de cacao en un an. Alors, on pourrait rétorquer que la vie sur place est moins chère que la nôtre. Certes, et ce n'est pas faux, mais pas dans ces proportions. Le revenu moyen de ces agriculteurs est de 2 700 $ par an. Ce montant est bien inférieur au revenu de subsistance de 7 300 $ par an, à peu près un tiers. Bon, on pourrait se réjouir, c'est déjà légèrement supérieur au revenu de l'extrême pauvreté de 2 300 $ par an. De ce fait, les agriculteurs n'obtiennent pas un revenu décent qui leur permettrait de répondre à leurs besoins fondamentaux et d'investir dans leurs exploitations cacaoyères. De plus, les agriculteurs ne sont pas assez payés pour leur travail, vont donc prendre de la main-d'œuvre en quelque sorte gratuite. Des études de l'Université de Chicago ont évalué que 800 000 enfants étaient mis à contribution en Côte d'Ivoire dans les exploitations cacaoyères. Des enfants qui s'occupent de cacaoyers mais qui ne peuvent pas aller à l'école, ce qui est considéré comme du travail forcé, de l'esclavage. Bon, en 2013, ils étaient évalués à 1,2 million. Il y a donc une amélioration, mais tant qu'il y aura un seul enfant, cela restera inacceptable. Ces enfants viennent notamment du Burkina Faso et du Mali voisin, qui sont des pays encore plus pauvres, dont la Côte d'Ivoire exploite souvent la main-d'œuvre. Les mêmes études indiquent que le taux de scolarisation était de 60% en 2008, puis 85% en 2018. Encore une fois, une amélioration, mais toujours une situation inacceptable. L'État de Côte d'Ivoire estime, lui, en 2020, que 71% des 5 à 17 ans sont inscrits à l'école, ce qui ne signifie pas qu'ils aillent à l'école. À cause du cacao ? Oui, c'est une industrie prépondérante de cet État. Alors, quel avenir pour ces agriculteurs ? Après des décennies de monoculture, d'herbicides, de fertilisants, les sols sont devenus pauvres. Au Ghana, les agriculteurs cultivent des cacaoyers sur des exploitations de 1 à 4 hectares en moyenne qu'ils ont hérité de leur famille. Un héritage qui perd de la valeur au fil du temps. Le défi majeur des petits exploitants indépendants est de gérer ces sols rendus infertiles, de gérer le changement climatique qui leur tombe dessus. Nous avons induit ces impacts pour répondre à la demande mondiale de chocolat en croissance rapide, sans compenser quoi que ce soit dans le sol, dans les rémunérations. Peut-être qu'au lieu de continuer à croire que nous allons les sauver en croquant une tablette, nous pourrions les aider à restaurer leur terre, la rendre de nouveau fertile pour qu'elle assure l'autonomie alimentaire. Et ensuite, si ce besoin fondamental est assouvi, peut-être pourrions-nous envisager de leur acheter du cacao qu'ils produiraient en plus de leur nourriture, s'il reste évidemment assez d'espace pour le cultiver. Et nous pourrions aussi envisager de l'acheter au vrai prix, sans payer grassement des intermédiaires occidentaux qui, eux, pour le coup, font des marges astronomiques. Au vu de tous ces éléments, ne pourrait-on pas quand même envisager le bien de tous, à savoir réduire très fortement notre consommation de cacao et de partager avec les autres les denrées de qualité que nous produisons, de prioriser l'enseignement sur la production de cacao.
N'écoutons pas les Khmer Verts et les prédicateurs à lampe à huile.
Salut le monde, le Figaro.
Ouais. Salut l'équipe, salut le métro.
Direct matin, direct midi, direct 4h, direct 5h, direct soirée, direct poubelle.
Et je veux redire que cela relève de l'éco-terrorisme.
C'était les Croissants décroissants, un magazine d'écologie sans chichi. Pour vos avis, commentaires, suggestions, vous pouvez toujours écrire à lescroissantsdécroissants@gmail.com. À vos tablettes et à la prochaine.
Les faucheurs volontaires emploient les moyens de la désobéissance civique non violente en agissant à visage découvert.
La banderole de tête de cette manifestation, ça va être « Change le système, pas le climat ».
La vie est en chute libre dans tous les secteurs. La situation globale de la planète relève de l'extermination.